Bienvenue sur le podcast de l'Église Vie. Bonne écoute.
Il faut de temps en temps qu'on parle aussi de sujets de société, des choses qui se passent autour de nous. Et ce matin, je vais vous parler d'un sujet de société à la lumière de la parole de Dieu. Donc je vais prendre des risques, parce que c'est un sujet qui souvent est polémique. C'est pas un sujet qu'on entend souvent dans les églises. On va parler des femmes, on va parler des hommes, on va parler d'une conséquence de la chute qui aujourd'hui prend une ampleur démesurée. Un de mes rôles, si j'en ai qu'un qui reste à la fin, c'est de vous avertir sur la pensée du monde à la lumière de la parole de Dieu. C'est le rôle d'une personne qui partage la parole de Dieu, avertir pour que chacun mette sa vie en règle, chacun soit sanctifié par la parole de Dieu, afin d'être saint. Après la création, il y a eu la chute. Tout le monde est familier avec la chute. Donc la chute, c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme. Donc le premier péché, la condition de l'homme après qu'il ait péché. Le premier homme et la première femme pêchent contre l'Éternel. À la suite de cela, l'Éternel Dieu prononce une série de conséquences. Certains appellent ça les malédictions. Il commence à en prononcer contre le serpent, alias Satan. Puis il en prononce sur la femme, puis il en prononce sur l'homme. C'est dans ce contexte-là que je vais vous lire le passage qui nous concerne ce matin. C'est Genèse 3. Je vous laisse prendre Genèse 3, verset 16. On va rester dans ces passages-là. Genèse 3, verset 16. C'est pas Jean 3, 16, mais Genèse 3, 16. Il, donc Dieu, dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Et là, vous vous dites, sûrement, mais dans quoi tu t'embarques? Oui, c'est un sujet difficile. Mais ça mérite qu'on aille creuser dedans et savoir ce que ça veut dire. Parce que ce n'est pas rien comme passage. C'est quand même un passage qui est très essentiel. Donc quelque chose se passe ici. Et ce quelque chose explique en grande partie la déchéance de notre société à travers l'explosion d'une manière négative de la famille, de la place de chacun dans la famille, dans le foyer. Alors, mon message ne porte pas sur la relation mari et femme, non, ni le rôle de chacun au sein du mariage, mais il porte sur le désir de notre nature, les désirs de notre nature qui sont une conséquence du péché et qui ne sont pas les mêmes selon qu'on soit un homme ou une femme. Donc que veut dire ce passage? Quelles sont ses implications? C'est ma première partie. Première partie, comment c'était avant la chute? Pour ça, j'aimerais qu'on lise Genèse 1, c'est une page avant, ou deux. Genèse 1, 26, 31. Je vais le lire. Genèse 1, de 26 à 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Merci Talia. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. On a compris. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que toute arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. à tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ok, ici, qu'est-ce qu'on apprend sur comment c'était avant la chute? Dominer ensemble sur la création. Dominer ensemble, hommes et femmes, sur la création. Et ça, Dieu dit que c'est bon. Très bon. Donc quand Dieu dit que quelque chose est bon, c'est bon. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est très bon. Ok? Ça, c'est ce qu'on apprend là. Genèse 2, 20 à 24. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc en hébreu, femme c'est Isha, homme c'est Ish. Donc Isha, c'est tiré de Ish. On rajoute quelque chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'un. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici sur comment c'était avant la chute? Ils ne font qu'un. Un, même eau, même chair. Et ensemble, ils ne font qu'un. Et ils dominent ensemble sur la création. Et ça, Dieu dit que c'est très bon. Donc quand on arrive au passage qui nous intéresse, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi, on se dit, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Si on ne sait pas entre deux. Qu'est-ce qui s'est passé? La chute a introduit une brisure, une rupture de l'harmonie, une désorganisation, une corruption de la création de Dieu que lui avait jugée bonne. Donc la chute introduit une brisure. Quelque chose se passe, il y a un changement. La deuxième partie, que veut dire ce passage? Et quel passage? Tes désirs se porteront vers ton mari. On va juste prendre ça. D'accord? Une première lecture en français, comme ça, on lit notre Bible. Et on se dit, qu'est-ce que ça veut dire? Nous pousse à dire que les désirs de la femme, bah, c'est son regard. Elle se tourne vers son mari, on se dit que c'est une bonne chose. Elle l'aimera, elle portera un regard de soutien, un regard d'amour. Elle désirera son mari, un regard de tendresse. On peut dire, la première lecture, on va dire, c'est ça que ça veut dire. Elle va regarder son mari, regard de tendresse, tes désirs se tourneront vers ton mari. C'est beau. C'est pas du tout ça que ça veut dire. D'ailleurs, si on prête un petit peu, pas besoin de faire des grandes études, un petit peu attention au contexte, on réalise qu'on est dans une suite de malédictions, là, qui sont une conséquence de la chute. Donc une conséquence du péché serait que la femme aime son mari? Bof. Non, il y a un problème. Quand il y a un problème, quelque chose qui nous tracasse, ça veut dire qu'on doit aller regarder plus près, on doit aller plus loin. Une traduction plus littérale du passage serait « et vers ton mari, vers ton homme, ton désir ». C'est ça que ça... Voilà, nous on a rajouté des mots pour qu'une compréhension plus simple, mais ça serait ça. Pour comprendre la réalité de ce passage, nous devons rechercher quand cette même expression, avec ces mêmes mots, sont utilisés ailleurs dans la parole de Dieu, regarder son contexte, faire des comparaisons. C'est ce qu'on appelle une analyse textuelle. On va faire ça, ça va être très simple. Et il se trouve qu'on n'a pas besoin de chercher bien loin, car la parole de Dieu est parfaite et qui ne nous laisse jamais dans l'ignorance trop longtemps. C'est le chapitre suivant. Je vais vous demander d'aller dans Genèse 4, de 6 à 7. Pendant que vous y allez, je vous dis, c'est dans ce passage-là, on parle de Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Et à ce moment-là, Caïn a une mauvaise attitude devant Dieu, vis-à-vis du sacrifice, de ce qui vient, l'offrande. il a une mauvaise attitude devant Dieu. Et Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Là, tout de suite, le lecteur, il se dit, ah, c'est incroyable ça. La même formule, les mêmes mots, dans le même ordre, même en français, et c'est encore plus vrai en hébreu, les mêmes mots que Dieu prononce quelques années ou quelques décennies après qu'il les ait prononcés à ses parents. On ne sait pas la notion de temps à ce moment-là. On peut imaginer des années ou des décennies, parce qu'ils n'avaient peut-être pas d'enfants, et maintenant, là, il est grand, et j'en sais pas. Mais on apprend ici que c'est le péché qui porte ses désirs sur Caïn. Mais que c'est à Caïn de dominer sur le péché. Le péché ne porte pas un regard de tendresse sur Caïn. Le péché veut le dominer. Le péché veut le contrôler. Le péché veut prendre sa place, veut devenir sa nature. C'est ça que le péché veut faire à Caïn. Ok. Donc maintenant, on revient à notre passage. Ça nous permet de comprendre dans le passage avant le contexte de « tes désirs se porteront vers ton mari ». Ça veut dire quoi? La conséquence de la chute du péché est que l'harmonie, l'unité parfaite d'avant est remplacée par le désir, est remplacée par l'envie de contrôler, l'envie de prendre la place de l'homme pour la femme. Et là, je m'adresse à la femme. Je m'adresserai à l'homme plus tard. C'est une conséquence que Dieu prononce sur la femme. La femme Ève, la première femme, et toutes les femmes qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui, cette caractéristique va faire partie de leur nature pécheresse. Je n'ai pas besoin de vous expliquer le contexte d'aujourd'hui, le féminisme. Pas celui de vouloir avoir une cohérence vis-à-vis d'une certaine discrimination de salaire et tout ça. Je ne parle pas de ce féminisme-là, le... Oui, il faut qu'on ait une certaine égalité. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler du féminisme contre l'homme. La femme qui veut prendre la place de l'homme. La femme qui veut être tout ce que l'homme représente, toute sa nature. Comme Caïn, qui est jaloux et qui porte un regard... un mauvais regard sur l'homme. Mais Dieu dit, c'est à toi de dominer ce désir. Plus ça sur plus tard. Est-ce que ça permet de comprendre un petit peu? La femme, aujourd'hui, la nature pécheresse de la femme, la conséquence de la chute des péchés, c'est que la femme aurait tendance à porter un regard de désir de ce que l'homme représente et vouloir prendre sa place. Vouloir... Ça ne veut pas dire qu'elle en arrive là. Mais ça fait partie, c'est une conséquence de la chute, du péché. C'est que c'est une tendance commune aux femmes, cette chose-là. La deuxième partie du passage dit, mais lui, il dominera sur toi. Et là, c'est pas pour les hommes, ouais, super, t'as vu, bim, dans les dents. Hé, nous, c'est nous le chef. C'est qui le chef? C'est nous. Non, non, non. Ce qui est une malédiction pour la femme est une malédiction pour l'homme. C'est aussi une conséquence du péché. À l'origine, les deux, dans une unité parfaite, dominent la nature. L'homme qui domine la femme est une corruption de l'harmonie initiale. On parle de dominer. Le texte n'est pas le suivant. Tes désirs ne doivent pas se porter vers ton mari et il ne devra pas te dominer. Non, non. C'est une concession, c'est du présent, c'est comme ça que ça se passe. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. C'est une conséquence. C'est un fait, une réalité. Et comme les femmes qui doivent se battre contre cela, l'homme doit aussi combattre cette domination. Et on ne la combat pas en laissant la femme dominer. Car sinon, on laisse les désirs de la femme se porter vers l'homme. Vous comprenez? On ne peut pas réagir comme ça. Donc ça nous permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui. Quand l'homme s'abandonne à sa nature propre, à sa nature du péché, il veut dominer. Tout dominer. Il veut prendre tout le contrôle. Quand je veux dire il veut dominer, c'est qu'il veut dominer. La description la plus visible aujourd'hui, l'exemple le plus visible aujourd'hui serait l'islam. Ce serait le truc le plus visible de l'homme qui s'abandonne à son péché, de dominer la femme. Vous savez ce qui se passe dans l'islam vis-à-vis de les femmes et vis-à-vis de l'homme. Et la femme aussi, qui s'abandonne à son péché, à sa nature propre, eh ben elle veut prendre la place de l'homme. Et si on est chacun de nous honnête avec nous-mêmes, on sait que c'est vrai. Mais ceux qui ont longtemps marché avec le Seigneur, depuis longtemps, et qui ont laissé son esprit et le fruit de l'esprit prendre place en soi, c'est beaucoup moins vrai pour eux. C'est beaucoup moins une réalité que, oui, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir prendre la place de l'homme. C'est beaucoup moins vrai. Le problème, c'est pas l'homme. Le problème, c'est pas la femme. Le problème, c'est le péché. Mais le péché, qui fait partie de notre nature et notre réalité, nous montre la beauté et l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est qu'il nous permet de sacrifier cette nature-là. La croix, la beauté, l'œuvre de Jésus sur la croix nous permet de prendre cette nature propre, cette nature pécheresse, et de la sacrifier. Cette ancienne nature, afin que nous soyons de nouvelles créatures et que nous ne vivions plus en suivant les désirs de notre ancienne nature, mais que nous soyons renouvelés par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Vous comprenez les paroles de Paul ? À la condition que nous sacrifions cette ancienne nature. Cela est valable qu'on soit marié ou pas. On peut se dire, ce passage ne me concerne pas, je ne suis pas marié. Cela est aussi valable pour tous les désirs de la nature pécheresse. Là, j'en ai parlé de deux, celle qui concerne la femme d'une manière plus précise et l'homme, mais toutes les natures. Je vais vous lire Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, il y en a tellement. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, Paul qui parle, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de la nature pécheresse, une conséquence de la chute. Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur le péché. Homme, c'est à toi de dominer cette envie de contrôle, de domination, de tout ce qui va avec. Et femme, c'est à toi de dominer ce désir de vouloir prendre la place de l'homme, la nature de l'homme, prendre son contrôle. Comment devons-nous donc être ? Et ça, c'est ma dernière partie. Paul nous aide heureusement à naviguer cette difficulté. Dans sa lettre, dans une de ses lettres, et celle qui est très mal comprise aujourd'hui, mais je vais seulement parler de la conclusion de cette lettre, c'est Éphésiens 5, verset 33. C'est la lettre, en effet, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, hommes, aimez-moi. » C'est cette lettre. C'est une lettre qu'on a du mal à lire. Mais la conclusion de tout ce que Paul dit dans ce passage-là, y compris ces mots, c'est ceci. Éphésiens 5, 33. Du reste, conclusion en gros, ça veut dire. De tout ce que j'ai dit, du reste, que chacun de vous, parlons aux hommes, aime sa femme, comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Il ne dit pas la même chose à l'homme qu'à la femme. Est-ce qu'il ne serait pas en train de répondre à ce qui se passe dans la Genèse? Il ne conseille pas la même chose à chacun, parce que chacun n'est pas tenté par la même chose. Pour la femme, aimer son homme, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. C'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel pour une femme d'avoir l'amour sentimental, d'avoir la tendresse, d'avoir ces choses-là vers un homme. C'est quelque chose, et ça on le voit dans notre société, on sait que les femmes ont beaucoup plus tendance à avoir ça d'une manière naturelle, mais pas l'homme. L'homme, c'est pas forcément sa première nature d'avoir cet amour sentimental. Donc, Paul dit, homme, aimez vos femmes, l'inverse de la dominer. Quand tu veux, si t'aimes, tu ne domineras pas. C'est l'inverse. Et il dit aux femmes, respecte ton mari. Parce que si tu le respectes, tu ne voudras pas prendre sa place. Et c'est pas la même chose. Il dit pas, femmes, aimez vos maris. Même si c'est quand même sous-entendu, on le sait. Parce que c'est quelque chose d'inné chez la femme. Il dit pas à l'homme, respecte la femme. Il dit, homme, aime ta femme. Et femme, respecte ton mari. Ces paroles-là nous permettent de comprendre pourquoi. C'est pas exactement la même chose qu'il conseille. Donc je conclurai en disant, ne vivons plus selon les désirs de notre ancienne nature. Et dans la lettre aux Galates que j'ai commencé à lire en disant, les œuvres de la nature sont évidentes et toutes les mauvaises choses que j'ai citées, au verset 22, Paul continue. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature propre, la nature pécheresse, celle qui est la conséquence de la chute, la nature propre avec ses passions et ses désirs. Tes désirs se porteront vers ton mari. Avec ses désirs, si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. N'est-ce pas merveilleux ? Paul nous dit là, il y a une conséquence de la chute, c'est le péché, et vous le savez. Et du coup, à cause de ça, vous avez une nature pécheresse, vous naissez avec une nature pécheresse. Mais vous n'êtes pas obligé de vous abandonner à cette nature pécheresse. Vous pouvez obtenir le fruit de l'esprit qui va vous permettre de sacrifier cette nature propre, vous sacrifiez ses passions, vous pouvez sacrifier ses désirs. Et en échange de ce sacrifice, je vous donne des bonnes choses. Le fruit de l'esprit. Amen.
Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.